Voilà où j'en étais au moment de quitter l'université en 1983, diplôme en poche. De grandes idées et nulle part où aller. Aucun mouvement auquel se joindre, aucun leader désintéressé à suivre. Le projet qui se rapprochait le plus de ce que j'avais en tête était une initiative appelée l'organisation de communautés. Un travail associatif, sur le terrain, consistant à mobiliser des citoyens ordinaires autour de certains sujets à l'échelle locale. Après avoir papillonné d'un job à un autre à New York sans jamais trouver ce qui me correspondait, j'ai entendu parler d'un poste à Chicago, au sein d'une association d'église qui s'était regroupée pour essayer de maintenir à flot des populations ravagées à la suite de la fermeture des aciéries. Rien de très spectaculaire, mais ce serait un début. J'ai déjà raconté ailleurs cette expérience. Les victoires étaient bien maigres et éphémères dans ces quartiers ouvriers majoritairement noirs où je passais mon temps. L'organisation pour laquelle je travaillais ne faisait guère le poids face aux changements qui bouleversaient le paysage urbain, non seulement à Chicago, mais partout ailleurs aux États-Unis. Le déclin de l'industrie, l'exode des populations blanches loin des centres-villes, la paupérisation de toute une frange de la population, silencieuse et isolée, tandis que l'apparition d'une nouvelle classe éduquée accentuait le phénomène de gentrification dans certains quartiers. Si les actions que j'ai pu mener à Chicago n'ont eu que peu d'impact, cette ville en a eu un décisif en revanche sur mon parcours. Elle m'a permis tout d'abord de reprendre pied dans le monde réel. Il me fallait désormais être à l'écoute des problèmes des gens au lieu de broder des théories. Je devais demander à des inconnus de se joindre à moi et de collaborer sur des projets concrets. Réhabiliter un parc, désamianter des logements sociaux ou monter un programme de cours du soir. J'ai connu des échecs et j'ai appris à me retrousser les manches afin de mobiliser tous ceux qui avaient placé leur confiance en moi. J'ai essuyé suffisamment de brimades et d'insultes pour ne plus en avoir peur. Autrement dit, j'ai grandi et j'ai retrouvé mon sens de l'humour. J'ai fini par m'attacher aux hommes et aux femmes avec qui je travaillais. La mère célibataire qui vivait dans un quartier dévasté et qui s'était pourtant débrouillée, Dieu sait comment, pour envoyer ses 4 enfants à l'université. Le prêtre irlandais qui ouvrait grand les portes de son église tous les soirs afin que les gamins du coin aient une autre option que de traîner avec les gangs. Le sidérurgiste au chômage qui reprenait ses études pour devenir travailleur social. Les épreuves que toutes ces personnes avaient traversées et leur modeste triomphe ne cessaient de me conforter dans l'idée que les gens étaient foncièrement bons et honnêtes. Grâce à eux, j'ai vu à quelle transformation on pouvait aboutir quand les citoyens demandaient à leurs dirigeants et aux institutions de leur rendre des comptes, même sur les questions les plus triviales. Par exemple, pour réclamer l'installation d'un panneau stop à un carrefour très passant, ou des patrouilles de police plus fréquentes. J'ai remarqué que les gens se tenaient soudain un peu plus droits, qu'ils avaient de même une image différente quand ils s'apercevaient que leur voix ne comptait pas pour rien. Grâce à eux, j'ai pu résoudre les questions qui me taraudaient à propos de ma propre identité raciale, car je me suis rendu compte qu'il n'existait pas une seule et unique façon d'être noir. Essayer d'être un type bien était déjà suffisant. Grâce à eux, j'ai découvert une communauté de croyances. J'ai compris qu'on avait le droit de douter, de remettre en cause, sans pour autant cesser d'aspirer à de meilleurs lendemains. Et comme j'entendais, dans les salles en sous-sol des églises ou sur les vérandas, exalter ces mêmes valeurs, l'honnêteté, le travail, la compassion que m'avaient inculqué ma mère et mes grands-parents, j'en suis venu à croire en la force du lien commun qui unissait les gens. Je ne peux pas m'empêcher de me demander parfois ce que je serais devenu si j'avais continué à travailler dans l'action sociale ou dans une activité de ce genre. J'aurais peut-être réussi, à l'instar des nombreux héros du quotidien que j'ai eu l'occasion de côtoyer au fil de ces années sur le terrain, à monter une institution capable de redonner ses couleurs à un quartier ou à une partie de la ville. Ancré dans une communauté, j'aurais pu soulever suffisamment de fonds et d'imagination pour changer non pas le monde, mais un lieu bien précis, un seul, ou l'existence d'une poignée de gamins, en faisant un travail susceptible d'avoir un impact réel et quantifiable sur la vie d'un groupe de voisins et d'amis. Mais je ne suis pas resté. Je suis parti étudier le droit à Harvard. Et c'est ici que l'histoire devient plus trouble dans mon esprit. Mes motivations sujettes à interprétation. Je me suis dit alors, comme j'aime à le croire aujourd'hui encore, que j'avais lâché le monde associatif parce que le travail que j'y faisais était trop lent à mes yeux, trop limité, inapte à répondre aux attentes des gens à qui je voulais venir en aide. Un centre de formation local ne pouvait pas soulager les milliers de personnes qui avaient perdu leur emploi à cause de la fermeture d'une aciérie. Quelques cours du soir ne pouvaient pas compenser le déficit chronique des fonds alloués aux écoles de quartier ou changer la donne pour des enfants qui se retrouvaient à la charge de leurs grands-parents parce que leur mère et leur père étaient tous deux derrière les barreaux. Quel que soit le problème, nous avions l'impression de nous heurter systématiquement à quelqu'un, un homme politique, un fonctionnaire, un lointain PDG, qui avait le pouvoir d'améliorer les choses, mais ne le faisait pas. Et quand nous réussissions à obtenir des concessions, celles-ci se révélaient souvent insuffisantes et arrivaient trop tard. Le pouvoir d'établir des budgets et une politique d'action globale, voilà ce dont nous avions besoin. Et ce pouvoir, ce n'était pas ici qu'il fallait le chercher. Par ailleurs, j'avais pris conscience que, 2 ans avant que je m'y installe, il s'était bel et bien produit une amorce de changement à Chicago. Un changement à la fois social et politique. Un mouvement profond et rapide, dont je n'avais pas su saisir l'ampleur sur le moment parce qu'il n'entrait pas dans le cadre de mes théories. C'était le mouvement qui avait permis à Harold Washington de devenir le premier maire noir de la ville. Ce phénomène semblait avoir jailli de nulle part, adossé à la campagne la plus locale qu'on ait jamais connue dans toute l'histoire de la politique moderne. Un petit groupe de militants et de chefs d'entreprise noirs, fatigués de se retrouver constamment en butte aux préjugés et aux inégalités dans la ville la plus ségrégée des États-Unis, s'était démené pour faire inscrire un nombre record de citoyens sur les listes électorales et avait convaincu un député au physique corpulent, dont le talent était aussi prodigieux que son ambition était limitée, de briguer un poste qui semblait totalement inaccessible. Personne n'aurait parié sur lui. Harold lui-même était sceptique. La campagne s'était appuyée essentiellement sur le bouche-à-oreille, menée par une équipe composée en grande partie de bénévoles inexpérimentés. Et puis, le miracle avait eu lieu, comme une espèce de combustion spontanée. Des gens qui ne s'étaient jamais intéressés à la politique, des gens qui de toute leur vie n'avaient jamais glissé le moindre bulletin dans l'urne, s'étaient ralliés à la cause. Même les retraités et les écoliers s'étaient mis à arborer le badge bleu de soutien aux candidats. Un soulèvement collectif contre les injustices et les humiliations qui n'avaient cessé de s'accumuler, toutes ces interpellations abusives et tous ces manuels scolaires de seconde main, toutes les fois où les Noirs passaient devant un gymnase municipal du quartier résidentiel de Northside et remarquaient à quel point il était mieux que celui de leur quartier, toutes les fois où ils s'étaient vus refuser une promotion ou un emprunt bancaire, avaient emporté la mairie comme une tornade. À l'époque où je suis arrivé à Chicago, Harold en était à la moitié de son premier mandat. Le conseil municipal, hier encore une institution fantoche qui ne servait qu'à entériner les décisions de l'ancien maire Richard J. Oldman Daley, voyait s'opposer 2 camps, séparés par une ligne de fracture raciale, une majorité de conseillers blancs faisant obstacle à toutes les réformes proposées par Harold. Ce dernier s'efforçait tant bien que mal de les amadouer et de trouver des compromis, mais il refusait de bouger d'un pouce. Cela donnait lieu à des empoignades formidablement télégéniques, sauvages et sans pitié, mais limitait aussi la capacité de Harold à tenir les engagements qu'il avait pris auprès de ses électeurs. Il fallut attendre qu'un tribunal fédéral ordonne le redécoupage d'une carte électorale jusqu'alors biaisée par les inégalités raciales pour que Harold puisse enfin obtenir la majorité au conseil municipal et sortir de l'impasse. Mais avant qu'il ait eu le temps de mettre en œuvre les changements qu'il avait promis, il succomba à un infarctus. Et c'est un héritier de l'ordre ancien, Richard M. Daley, qui finit par reconquérir le trône de son père. Sans être au cœur de l'action, j'avais suivi tous les épisodes du drame et tenté d'en retenir les leçons. Cela m'avait permis de me rendre compte qu'un mouvement politique, même animé par la plus formidable énergie, n'était pas viable à terme s'il ne s'appuyait pas sur une structure, une organisation et certaines compétences dans la conduite gouvernementale. Qu'une campagne fondée sur la lutte contre les inégalités raciales, si honorable soit-elle, suscitait l'inquiétude et des réactions violentes, et finissait ainsi par entraver toute possibilité de progrès. Et en voyant avec quelle rapidité la coalition qui s'était formée autour de Harold s'était désagrégée au lendemain de sa mort, j'avais compris à quel point il est hasardeux de s'en remettre à un seul et unique leader charismatique pour faire advenir le changement. Et pourtant, quelle énergie déployée pendant ces 5 années. Malgré les obstacles, Chicago avait bel et bien changé pendant le mandat de Harold. Les services municipaux, de l'élagage des arbres au déblayage de la neige en passant par les travaux de voirie, étaient désormais mieux répartis dans l'ensemble de la ville. De nouvelles écoles avaient ouvert dans les quartiers pauvres. L'accession au poste de la fonction publique n'était plus seulement une affaire de clientélisme, et l'on commençait enfin à se préoccuper de l'absence de diversité au sein des entreprises. Mais surtout, Harold avait donné de l'espoir aux gens. La façon dont les Noirs de Chicago parlaient de lui durant ces années-là n'était pas sans rappeler la façon dont une certaine génération de progressistes blancs évoquait Bobby Kennedy. Ce qui importait à leurs yeux, ce n'était pas tant ce qu'il faisait que le sentiment qu'il vous donnait. Le sentiment que tout était possible, que vous pouviez changer le monde. En ce qui me concerne, grâce à lui, une graine avait été semée. Pour la première fois, je me disais qu'un jour je briguerais un poste dans la fonction publique. Je n'étais pas le seul que l'exemple de Harold ait inspiré. C'est au lendemain de son élection que Jesse Jackson annonça sa candidature à la présidence. N'était-ce pas là que l'énergie du mouvement pour les droits civiques s'était déportée dans la politique électorale? Certains de ses plus illustres représentants, comme John Lewis, Andrew Young ou Julian Bond, ne s'étaient-ils pas présentés eux aussi devant les suffrages des citoyens, à présent convaincus que c'était dans cette arène-là qu'ils pourraient faire la différence? Je savais que les pièges étaient nombreux. Les compromis, la course perpétuelle au financement, le risque de perdre de vue ses idéaux en cours de route, et la recherche effrénée de la victoire à tout prix. Mais il y avait peut-être une autre façon de s'y prendre. Peut-être était-il possible de soulever la même énergie, de donner aux gens le même sentiment d'avoir une raison d'être, pas seulement au sein de la communauté noire, mais au-delà des lignes de division raciale. Peut-être avec suffisamment de préparation, de connaissance des rouages de la politique et de compétences dans la gestion d'équipe, était-il possible de ne pas commettre les mêmes erreurs que Harold? Peut-être était-il possible d'appliquer les principes de l'action associative non seulement à la conduite d'une campagne, mais à l'exercice du pouvoir, d'encourager la participation active et l'initiative des citoyens parmi ceux qu'on avait laissés sur la touche, et de leur apprendre non pas simplement à faire confiance à leurs dirigeants élus, mais à se faire confiance entre eux et à avoir confiance en eux-mêmes. Voilà ce que je me disais, mais ça ne s'arrêtait pas là. J'étais également en proie à des questionnements d'une portée plus personnelle, concernant mes propres ambitions. J'avais beau avoir énormément appris de mon travail sur le terrain à Chicago, je ne pouvais pas me prévaloir de grand-chose en termes de résultats concrets. Même ma mère, elle qui avait toujours marché au son d'un autre tambour que celui de l'ordre établi, s'inquiétait pour moi. « Je ne sais pas, Bert, » m'a-t-elle dit un jour à Noël. « Tu pourrais très bien passer toute ta vie à travailler en dehors des institutions. » Mais peut-être que tu arriverais à plus de choses en essayant de changer ces institutions de l'intérieur. Croisant mon expérience, a-t-elle ajouté avec un petit rire triste. Être fauché, c'est très surfait. Et c'est ainsi qu'à l'automne 1988, je suis parti mettre à l'épreuve mes ambitions, dans un endroit où l'ambition n'était pas vraiment une denrée rare. Major de promo, président du conseil des étudiants, latiniste chevronné, champion de concours d'éloquence, les étudiants de Harvard étaient pour la plupart des jeunes gens impressionnants qui, contrairement à moi, étaient convaincus depuis leur plus tendre enfance et à raison d'être destinés à accomplir de grandes choses dans la vie. Si je m'en suis moi-même plutôt bien sorti là-bas, je pense que c'est en grande partie parce que j'avais quelques années de plus que mes camarades. Alors que beaucoup d'entre eux se sentaient écrasés par la charge de travail, pour moi, bûcher pendant des journées entières à la bibliothèque, ou mieux encore sur mon canapé loin du campus, devant un match de basket sans le son, représentait un luxe extraordinaire après ces 3 années passées à organiser des réunions de quartier et à faire du porte-à-porte dans le froid. Et puis il y avait autre chose. Étudier le droit se révéla pas si différent de ce que j'avais fait jadis, à l'époque où je me perdais en considération sur les grandes questions civiques. Quels étaient les principes qui devaient gouverner la relation entre l'individu et la société, et jusqu'où s'étendaient nos obligations envers les autres? Dans quelle mesure l'État devait-il intervenir dans la régulation du marché? Comment le changement social advient-il, et comment la loi peut-elle faire en sorte que chacun ait voix au chapitre? Ces sujets me passionnaient. J'adorais en débattre pendant des heures avec les autres étudiants, surtout les plus conservateurs d'entre eux, qui, en dépit de nos désaccords, semblaient apprécier que je prenne leurs arguments au sérieux. En classe, je levais la main en permanence, ce qui me valait souvent des coups d'œil agacés de la part de mes condisciples, et c'était bien mérité. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était comme si, après avoir passé des années enfermé dans mon coin à nourrir une obsession bizarre, jongler, mettons, ou avaler des sabres, je me retrouvais subitement dans une grande école du cirque. L'enthousiasme compense bien des défauts, comme je le répète sans cesse à mes filles. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour moi à Harvard. Pendant ma 2e année, j'ai été élu à la tête de la Law Review. C'était la première fois qu'un noir accédait à ce poste, ce qui a piqué la curiosité de la presse nationale. J'ai signé un contrat pour écrire un livre. Des propositions d'embauche sont arrivées d'un peu partout, et tout le monde pensait que mon chemin était désormais tout tracé, comme ça avait été le cas pour mes prédécesseurs à la Law Review. Je commencerai par devenir l'assistant d'un juge à la Cour suprême, puis j'entrerai dans un grand cabinet d'avocats ou au bureau du procureur fédéral, et le moment venu, je pourrais, si j'en avais envie, me lancer en politique. Tout cela était assez enivrant. La seule personne qui semblait avoir des doutes sur cette glorieuse trajectoire annoncée, c'était moi. Tout était allé trop vite. Les promesses de salaire mirobolants, l'attention médiatique, je flairais le piège. Heureusement, j'avais un peu de temps devant moi pour décider quel serait mon prochain coup. Et de toute façon, comme je n'allais pas tarder à m'en apercevoir, la décision la plus importante qui m'attendait au tournant n'avait strictement rien à voir avec le droit.